Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Claude Jopard. Claude, tu es géophysicien et donc tu aimes la Terre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'intérieur de la Terre. Mais avant cela, j'aimerais qu'on évoque un souvenir commun de notre adolescence, la lecture d'un livre de Jules Verne, Le voyage au centre de la Terre.
Tout Jules Verne m'a beaucoup marqué, non seulement le voyage au centre de la Terre, mais l'idée d'aller sur la Lune, d'aller explorer le monde.
Ça raconte l'histoire du professeur Lidenbrock qui découvre un vieux manuscrit qui date de plusieurs siècles et qui décrit un voyage au centre de la Terre. Alors le professeur se met en tête de refaire le voyage. Il part en Islande, c'est une aventure compliquée. Il monte en haut d'un volcan et avec son neveu et avec un guide, ils descendent au centre de la Terre. Bon, je ne vais pas tout raconter parce que bon, ça finit bien, l'histoire finit bien. Alors Claude, pourrais-tu me dire pourquoi un tel voyage est impossible ?
Lorsqu'on s'enfonce dans la Terre, il y a deux choses qui changent. D'une part, la température et d'autre part, la pression. Malheureusement ou heureusement, dans la Terre, dès qu'on s'enfonce, en fait, à une profondeur de quelques dizaines de kilomètres, les roches ne sont absolument pas capables de supporter des vides. Alors le vide peut être rempli d'eau ou pas, mais c'est un vide. Et en fait, la pression ambiante va faire refermer toute cavité qui se formerait. Donc on peut essayer de descendre, mais au bout de quelques kilomètres, on arrive à un milieu qui est parfaitement compact.
À ce jour, l'homme est descendu à quelle profondeur ?
Le forage le plus profond que l'on ait réalisé, c'est en Russie, sur la péninsule de Kolaï. Il va jusqu'à 12,5 km, je crois.
Mais on n'a pas envoyé des hommes au fond ?
Non, on n'a pas envoyé des hommes au fond, Dieu merci, parce qu'à 12,5 km, déjà, la température elle doit être de 250 degrés.
Oula.
Et puis la pression nous réduirait à l'état de crêpe ou de je ne sais quoi.
Donc quand tu dis forage, c'est vraiment une carotte quoi, ou quelque
c'est,
chose
oui, de... c'est ça, un forage, oui. Et ils ont mis à peu près 30 ans pour atteindre 12 km. Parce que, évidemment, un train de tige, c'est du métal. On a beau croire que le métal est extrêmement rigide. En fait, sur quelques kilomètres, en fait, une tige de métal, ça devient aussi souple qu'un élastique. Et donc, au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient, ils avaient du mal à maintenir la tige verticale. Et à la fin, ils ont arrêté parce qu'en fait, ils ne perçaient plus à la verticale, ils perçaient à l'horizontale. La tige était tellement tordue qu'elle ne s'enfonçait plus.
À quoi ça sert ?
Pour tout te dire, moi, je trouve que ça sert à rien. On peut imaginer la Terre est un milieu extrêmement hétérogène et ça revient à dire qu'avec un échantillonnage sur une droite verticale, on va comprendre tout ce qui se passe autour. C'est un problème d'échantillonnage, c'est absolument pas suffisant pour déterminer l'assemblage des roches qui existent en profondeur. Il y avait aussi une question, je pense, de fierté nationale qui disait que c'était les Russes qui allaient faire le forage le plus profond du monde.
C'était quand ?
Alors ça a commencé dans les années 70, je crois, et ça s'est terminé, ça a pris à peu près 25 ans.
Donc c'est un peu comme la conquête de l'espace.
C'était à peu près pareil, oui.
Et les Américains, ils allaient profond aussi ou pas ?
Les Américains avaient eu un projet pour aller forer dans les océans. Parce que la grande question aussi à l'époque, qui est maintenant bien résolue, c'est qu'est-ce qu'il y a en profondeur sous les sédiments océaniques. Et donc, il y avait un projet de le faire, mais c'était trop cher, donc ils avaient abandonné.
Fais-moi un petit récapitulatif, c'est ce que j'aurais dû l'apprendre quand j'étais en quatrième ou peut-être en troisième. Il y a la croûte, en dessous de la croûte, il y a le manteau, en dessous du manteau, il y a le noyau. J'ai bon ?
Oui, c'est ça. Par contre, il faut faire attention au fait que ce n'est pas la même chose sous les océans et les continents.
Commençons par le début. La croûte. La croûte, c'est quoi ?
Dans les continents, ce sont essentiellement des roches de type granitique. Mais la croûte est stratifiée, donc les granites sont plutôt abondants près de la surface, et plus on s'enfonce, plus on a des roches qui sont denses.
Et c'est quelques kilomètres, la croûte ?
Alors la croûte continentale, elle fait en moyenne 39 km d'épaisseur. Elle est différente de la croûte océanique, qui n'a pas la même composition, et qui, elle, ne fait que 7 km d'épaisseur. Et la différence entre continent et océan, c'est lié en partie à ça. En dessous de cette croûte, on se retrouve dans une roche qu'on appelle le manteau. dont on parlera peut-être après. Et donc la différence entre le continent et l'océan, elle est entièrement dans cette pellicule superficielle qu'est la croûte. Et c'est pour cette raison que les océans sont des creux, qu'il y a de l'eau dans les océans. Il faut voir que les océans ne sont pas là parce qu'il y a de l'eau, mais parce que ce sont des creux. Et donc l'eau, elle va se mettre dans les bassins, dans les creux.
Là où elle peut.
Et là où elle peut. Et la croûte continentale est à peu près de cette épaisseur-là dans un continent non perturbé. Mais dès qu'on le perturbe, on va changer l'épaisseur de la croûte. Par exemple, sous une chaîne de montagnes qui résulte d'une collision, et bien la croûte s'épaissit. Comme tout effet de collision, il y a un effet d'accordéon qui fait qu'on épaissit la matière qui rentre dans une autre. À l'inverse, quand on l'étire, c'est par exemple le cas de bassins, par exemple la mer Caspienne ou la mer Noire, la croûte est amincie parce qu'on a étiré la croûte et donc on l'a amincie. La croûte fait 39 km dans les régions qui sont inactives, c'est-à-dire les vieux continents, comme par exemple le continent nord-américain, qui est stable depuis très longtemps, et puis par exemple le craton en Afrique du Sud, ou ceux d'Afrique aussi.
Au fond de la croûte, on doit avoir une pression absolument phénoménale, et on doit avoir aussi une température phénoménale.
Alors ça dépend, sous les continents elle n'est pas trop élevée, ça dépend des continents, mais elle est de l'ordre de 500 degrés. La pression elle fait 10 kilobars. Donc 10 kilobars, il faut voir que...
C'est-à-dire 10 000 fois la pression atmosphérique.
C'est ça, voilà. Et c'est donc une pression qui est grande, mais évidemment, plus on s'enfonce, plus ça va être grand. La pression n'augmente pas très rapidement dans la croûte parce que les roches ne sont pas très denses. Elle augmentera beaucoup plus rapidement dans les roches du dessous, puisque les roches du dessous sont encore plus denses. Et donc, elles contribuent à augmenter la pression beaucoup plus fortement.
Avec une telle pression et une telle température, c'est du liquide ou du solide ?
Alors, c'est du solide. Pour les roches, il faut faire attention, comme ce sont des corps qui sont de composition complexe, ce n'est pas un corps pur. Donc il n'y a pas une température de fusion, il y a un intervalle de fusion. Donc on appelle le solidus, c'est le moment où la roche commence à fondre. Et le liquidus, le moment où elle est entièrement fondue. Donc il y a un intervalle de température. Donc pour les roches continentales typiques, la température à laquelle elle commence à fondre, c'est à peu près 800 degrés.
Quand on quitte la croûte, on va plus profond et qu'on arrive donc dans le manteau, ça se passe brutalement ou bien ça se passe en continu ?
Malheureusement, il y a très peu d'endroits où on voit cette transition. Et là où on la voit, il y a par exemple un endroit dans les Alpes, en Italie, ça s'appelle la zone d'Ivrée, et qui, là, il y a un contact entre de la croûte et du manteau, qui a été mis à la surface parce que, à cause de la déformation dans les Alpes, il y a des bouts entiers de la croûte continentale qui ont été ramenés à la surface. Il y a aussi d'autres endroits où on peut observer ça, dans des chaînes de montagnes, puisque c'est dans les chaînes de montagnes qu'il y a de la déformation, et c'est dans ces cas-là qu'on peut espérer faire remonter des morceaux profonds de la Terre. Donc on voit quelque chose, mais on a un petit affleurement, et c'est clair que c'est pas une frontière à l'échelle millimétrique. À l'échelle géologique, rien n'est aussi abrupt que ce que l'on peut espérer.
Non mais à l'échelle du kilomètre, peut-être.
Oui, alors il y a une zone de transition en fait qui est faite de roches avec des laminations diverses et variées. Donc en fait c'est une zone dans laquelle il y a eu beaucoup de déformations et on se retrouve avec un espèce de petit sandwich de différents types de roches, des roches sédimentaires, des roches un peu granitiques. Tout ça, ça a été cisaillé et donc ce n'est pas une frontière très très nette.
C'est quoi la différence entre la croûte et le manteau ?
C'est dans la composition. Les roches, ce sont des mélanges d'oxydes. Pour décrire une roche, il faut environ au moins 8 oxydes. Donc c'est beaucoup. Il y a l'oxyde de silice, l'oxyde de magnésium, les oxydes de fer, l'oxyde d'aluminium, l'oxyde de calcium, etc. Donc c'est compliqué. Alors c'est pour ça d'ailleurs que l'étude de la fusion des roches, l'étude du comportement des roches n'est pas simple puisqu'on a affaire avec un éventail de roches qui est extrêmement large. Alors la croûte, elle est grosso modo assez riche en silice et c'est comme ça qu'on peut la différencier.
Tout ce que tu me dis là, comment tu le sais ? Puisque quand même, tu m'as dit tout à l'heure qu'on n'est pas descendu si profondément. Comment est-ce qu'on sait qu'à 39 km de profondeur, on a cette composition, cette température ?
Alors, la température, on ne l'a pas mesurée directement. Par contre, la composition, on l'a, puisque dans certains endroits, ça a été ramené à la surface. Donc, on peut l'échantillonner directement. C'est ce que je disais dans les Alpes, dans la zone d'Ivrée, par exemple. Il y a un endroit où on voit ce qui est le fond de la croûte. Et puis, en dessous, il y a ces roches qui sont des roches différentes, qu'on appelle des péridotites. On peut en voir aussi dans les Pyrénées. Donc, encore une fois, il faut une chaîne de montagnes. C'est là qu'il y a de la déformation. Et c'est là qu'on peut ramener des bouts profonds de la terre. Donc, dans le village de Lers, en Ariège, on voit aussi des roches du manteau. Et donc, ces roches-là, elles sont donc beaucoup moins riches en silice que la croûte continentale. Alors, on sait qu'elles sont sous la croûte continentale puisqu'on les voit en dessous. Et puis après, on peut déterminer leurs propriétés physiques. Donc, on va faire passer des ondes sismiques dans ces roches-là. Et puis, on va comparer avec les vitesses sismiques qu'on peut observer par émission d'ondes sismiques dans la Terre. Et donc, ces roches qu'on voit à la surface sont bien celles qui ont les vitesses sismiques des roches que les raies sismiques échantillonnent en profondeur.
Bon, alors, n'allons pas trop vite. D'après ce que je comprends, maintenant, tu vas nous parler de ce qui est encore plus profond, donc le manteau, qui commence donc à une quarantaine de kilomètres de profondeur. Et là, on va aller beaucoup plus loin. On va aller jusqu'au centre. Enfin, pas tout à fait, parce que au centre, il y a un noyau. On en parlera après, peut-être. Alors, comment est-ce qu'on a des informations fiables sur comment ça se passe dans le manteau ?
Pour échantillonner la Terre, on dispose de deux informations différentes. Il y a d'abord le champ de pesanteur et le moment d'inertie de la Terre.
Mais ça ne va pas donner une distribution de densité par profondeur.
Non, mais ce qui est important, c'est qu'on a pu déterminer par le champ de pesanteur la masse totale de la Terre et donc la densité moyenne. Une fois que j'ai cette information, je peux regarder la densité des roches de surface. Et je constate qu'en fait, la densité moyenne de la Terre est beaucoup plus élevée que la densité des roches de surface. Donc il n'est pas possible que les roches que je vois en surface soient représentatives de ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Première information.
Ça, c'est très qualitatif quand même. Hein.
Alors c'est très qualitatif, mais d'un autre côté, je n'ai pas un nombre infini de roches dans mon magasin pour pouvoir expliquer toutes ces densités. Donc j'ai déjà je peux trier. Je sais que si je mets des roches sédimentaires, ça ne va pas en profondeur. Première information. Le moment d'inertie, c'est la manière dont les masses sont distribuées par rapport à l'axe de rotation. Plus j'ai de la masse près de l'axe de rotation, et moins le moment d'inertie est fort. Donc quand j'ai le moment d'inertie total, je peux me demander, si je prends des roches plus denses, est-ce que je les mets tout près de l'axe de rotation, donc plus proche du centre de la Terre, ou est-ce que je les mets plus loin ? Donc avec le moment d'inertie, j'ai une deuxième information.
Mais là aussi, c'est assez qualitatif.
Tout à fait. Par contre, je sais maintenant que je ne peux pas non plus avoir deux unités seulement. Si j'ai uniquement de la croûte et du manteau, donc avec une roche 1 et une roche 2, je ne vais pas y arriver pour le moment d'inertie. Donc le moment d'inertie m'indique que je dois avoir quelque chose d'encore plus dense près du centre de la Terre. Donc j'ai cette information. Elle est qualitative, mais elle est importante. Et ça, c'est de l'information qu'on avait au 19e siècle.
Je repose la question. Avec ces pressions inimaginables, ça doit changer aussi la densité, quand même, de manière...
Oui, ça change la densité un petit peu.
Hein, un petit peu, pas beaucoup.
Ah bah, par exemple, les roches du manteau, elles vont aller d'une densité qui est de l'ordre de 3... trois fois celle de l'eau.
La densité globale de la Terre, c'est 4 ou 5, c'est ça ?
C'est 5,5.
5,5, oui.
Donc la densité du manteau, c'est à peu près 3,3, hein, disons à 40 km de profondeur. Et quand je descends vers 3000 km, ça va monter jusqu'à 4,5.
Ah, pas plus.
Pas plus. Oui, ça se comprime, mais ça ne se comprime pas n'importe comment.
Alors, le manteau, donc, c'est encore un solide.
Ah, c'est un solide en grande partie. Il y a des endroits où il est liquide, mais ce sont des endroits très particuliers et ce n'est pas de manière permanente. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Donc,
explique-moi la différence pour un géophysicien comme toi entre le solide et le liquide. Solide, ça veut dire que c'est cristallisé, ça veut dire que les atomes sont bloqués les uns contre les autres.
C'est ça, un solide, c'est un solide dans lequel les atomes sont liés les uns aux autres dans un réseau.
Dans une géométrie fixe.
Dans une géométrie fixe. Alors, c'est un assemblage de minéraux, donc chaque minéral a son assemblage d'atomes, mais chacun de ces minéraux a cet arrangement parfaitement régulier.
Mais pas à très grande échelle, petits cristaux qui sont accumulés n'importe comment.
Alors ça, c'est un gros problème, c'est intéressant, parce que la taille des cristaux joue un rôle essentiel pour la manière dont les roches se déforment. Dans l'intérieur de la Terre, on ne sait pas quelle est la taille des cristaux. Donc ça, c'est un gros problème. Si j'avais que des gros cristaux, ça ne se déforme pas bien. Si j'ai des tout petits cristaux, ça se déforme beaucoup mieux.
Tout petit, ça voudrait dire que millimètre.
On parle de, oui, à l'échelle du millimètre.
D'accord.
Mais un centimètre et un millimètre, ça change tout.
Bien sûr, d'accord. Ça, on ne sait pas.
Et ça, on ne sait pas. Ce qu'on a à la surface, c'est des roches qui ont été remontées. Mais comme elles ont été remontées, elles ont été changées. Et donc, la taille des cristaux-là n'est pas suffisante. Et en plus, on n'a que des échantillons qui étaient du manteau, qui n'étaient pas très profonds. Parce que même malgré la puissance des événements géologiques, on n'arrive pas à remonter des roches qui sont de 1000 km de profondeur. C'est pas possible.
Il remonte de quoi? De quelques centaines de kilomètres?
Quand il y a des éruptions volcaniques très particulières, on a des échantillons qui ont été ramenés de très grande profondeur. Le magma qui est créé à grande profondeur est capable d'arracher des petits bouts de roche et de les ramener à la surface. Donc par exemple, si vous allez à Pézenas, vous regardez Pézenas, c'est un endroit où il y a eu des éruptions volcaniques il n'y a pas très très longtemps. Et vous voyez que les maisons sont faites de roches noires. Mais dans ces roches noires, il y a des espèces d'inclusions qui sont vertes. Ben, ces inclusions vertes, c'est des inclusions de manteau. Et donc ici, dans Pézenas, les roches que l'on voit, c'est des mélanges de basalte qui a refroidi et a cristallisé, mais qui a amené avec lui des roches du manteau. Donc là, on a des échantillons de manteau.
Est-ce qu'on a une quelconque idée du temps que ça met pour revenir de ces profondeurs?
Alors oui, ça va très rapidement. Ben, d'une part, on a une idée tout simplement parce que c'est ramené par des liquides. Donc cette roche, elle est très dense et il faut que le liquide va très vite pour pouvoir la remonter. Si c'était très très lent, si par exemple ça montait infiniment lent, le liquide serait incapable de ramener ces roches parce que ces roches étant denses, elles coulent à travers le liquide. Donc on a une idée de la vitesse. Typiquement, ça va à peu près à la vitesse de l'ordre d'un kilomètre par heure, ces objets-là.
Claude, nous avons déjà parlé beaucoup. Je te propose qu'on arrête et qu'on commence... un autre épisode pour parler des choses encore plus profondes comme le noyau. Épisode suivant. Attendez la prochaine. Vous avez écouté de Peter Graham, Voyage au centre de la Terre, tout simplement.
Petite histoire de science. Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.